Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent. Comment vas-tu?
Ça va bien. Ça va bien, toi?
Très bien aussi. On fait un peu de présentiel. C'est beaucoup plus le fun d'enregistrer comme ça. On avait discuté là, lors du dernier enregistrement à la gestion des tiers à la fin. On avait commencé à aborder ça. Donc, cette fois-ci, on va vraiment aborder plus profondément ce sujet-là parce qu'il est quand même important, complexe. Il y a beaucoup d'éléments associés à ça. Fait que donc, je vais te laisser commencer avec ça parce que c'est, en tout cas, je trouve ça très intéressant comme chose et très pertinent pour l'avenir, mettons.
Oui, ben écoutez, depuis 10-15 ans, ben il y a toutes sortes d'organisations qui mettent des plateformes en ligne, des solutions, des services, de l'infra. Ça s'est raffiné puis on va dire consolidé au fil des ans, le IaaS, le PaaS, le SaaS, etc. Beaucoup d'entreprises font affaire justement avec des fournisseurs, avec contrat, des fois sans contrat, c'est plus périlleux. Mais quand vous décidez de faire un contrat, je dis là où l'exercice commence à être intéressant, c'est de ne pas aller trop vite. Autrement dit, oui, on est dans un monde qui vire vite, qui tourne vite, qui change vite. On déploie rapidement, on fait plus d'argent. Quand on va à l'externe pour certains de nos services, certaines de nos solutions, ben ça prend un moment de réflexion, ça prend un positionnement. Disons un positionnement cadre et réfléchi qui nous permette d'avoir pas juste une réflexion, mais qu'on se dote d'outils pour faire des évaluations. Autrement dit, je vais exposer un service, ma solution, ou utiliser un tiers pour un service, une solution, j'ai-tu des risques? Hein? La question à se poser, là, posez-la-vous pas, je vous donne la réponse. La réponse est oui. Il y a, je ne parle pas de faire une revue exhaustive de l'ensemble des catégories de risques, que ce soit le référentiel Maestro ou peu importe. Non, non, non. Des risques, il y a des risques à faire que vous pouvez évaluer. Puis souvent, les risques à faire, c'est de ne pas aller dans une telle solution. Vous perdrez, par exemple, des parts de marché ou quoi que ce soit. Mais moi, je parle vraiment, regardez d'un niveau technologique, là, les risques auxquels vous pouvez vous exposer. Je vais vous briefer brièvement sur des pistes de solutions que j'ai rencontrées par expérience. À date, j'ai pas vécu de mauvaises expériences. Je pense que Il y a des métaux qui existent, puis des fois, un minimum de réflexion. On dort dessus, puis on peut prendre des décisions très différentes le lendemain.
Oui, absolument. Puis dans un univers qui favorise la consommation rapide, qui favorise justement ce genre de choses en infonuagique, tu mentionnais justement les services infonuagiques, c'est tellement facile de juste sortir la carte de crédit puis commencer à consommer le dit service puis d'être content, d'être heureux puis d'avoir des affaires puis qu'on pense qu'on va vers l'avenir, qu'on est innovant, qu'on a des choses comme ça. Bien, effectivement, il y a des risques énormes associés à ce genre de choses-là. J'en ai heureusement jamais rencontré dans ma carrière encore, mais effectivement, les contrats types, quand on est à la carte de crédit, nous protègent pas tant que ça. Puis les contrats plus formels, ben il y a des petites affaires là-dedans qu'il faut être au courant justement pour s'assurer qu'on a une continuité de service. Parce que en général, comme entreprise, quand on consomme ce genre de service-là, c'est pour faire plus d'argent, améliorer nos processus, être plus productif, être meilleur. Et si à terme, ben, au bout de 6, 12, 18 mois, ben là, il y a un problème avec le fournisseur. Puis là, on peut prendre un exemple un peu triste comme ce qui est arrivé avec OVH notamment. Ben, les compagnies n'avaient pas bien lu leur contrat dans ce cas-ci. Et dans leur contrat, il n'était pas indiqué qu'il y avait un backup qui était inclus dedans. Donc, quand le centre de données a pris feu, ben, les données ont disparu, sont passées en fumée et de façon littérale dans ce cas-ci et pas juste figurée. Donc, dans un contexte comme ça, il faut être au courant de ce qui se passe, puis de lire les petits caractères. Puis là, on cite OVH parce que ça fait beaucoup les médias, mais la réalité, c'est que plusieurs centres de données par année qui brûlent. Donc, c'est une condition, disons, habituelle qu'un centre de données finisse par brûler à un moment donné ou un autre. Ce qui est une idée que j'ai de la misère à me faire, mais effectivement, ça, c'est pas anormal ce qui est arrivé là. Ce qui était anormal, c'est que les clients n'aient pas lu les contrats, n'ont pas lu les clauses qui les protégeaient, n'ont pas lu des choses comme ça. Donc, la gestion des tiers est un must parce que ça évite des mauvaises surprises comme celle-là, des faillites aussi d'ailleurs. Il y a des PME qui ont dû fermer parce que les données qui étaient là, ben, quand ils sont disparus, ils sont disparus, là, tu sais, c'est ever, là, il n'y a rien d'autre là, après ça, là, puis je te vois arriver, puis c'est plate, mais c'est comme ça, hein, quand les données sont effacées. Puis moi, j'ai eu un certain nombre de cas où j'ai perdu des données, puis j'ai pas trouvé ça le fun là, de perdre mes données, puis c'est pour toujours là, après ça. Là.
Fait que quand vous prenez la décision pour un service de l'infra, peu importe, d'aller chez un tiers, là, je donnerai pas d'exemple, là, mais on est tous des consommateurs chez des fournisseurs. Pensez à Google, pensez à Amazon, pensez à... En fait, tout ce qui est GAFAM, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a de la donnée qui c'est personnel dans nos cas, là, mais il y a de la donnée personnelle qui est saisie ou qui est hébergée justement dans ces sites-là. Mais allons-y plus précisément, mettons, pour des besoins de votre entreprise, ben, premier élément, c'est de faire le comparable. Est-ce qu'une solution à l'interne, bien entendu, ça devient plus cher. Il y a le coût d'acquisition, le coût immédiat. Puis ensuite de ça, la charge annuelle. Hein? On a parlé de projet de modernisation la semaine passée. Ben, avoir un serveur, des applications, de la donnée, de l'équipement, c'est comme une voiture. Ça coûte cher d'acquisition, mais ça coûte cher d'entretien. Là. Il y a des coûts associés à ça. Donc, vous faites justement votre comparatif. Puis, méfiez-vous. Il y a des tiers où c'est les seuls qui existent sur la planète à offrir des fois tel type de service. Il y a un danger à ça. Peut-être que le service est hautement spécialisé, c'est ça que vous avez de besoin. Le danger, c'est justement si jamais le tiers disparaît, ben la prestation de service que vous offrez à votre clientèle, soit pour un produit, un service, avec l'aide de ce tiers-là, ben s'il disparaît, vous êtes un petit peu dans la chenoute. Fait que pensez à vos options. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers ce type de fournisseur-là. C'est pas ça que je veux dire. Mais pensez à ce risque-là. Vous faites quoi si cette situation-là arrive? Pensez à votre plan de contingence.
Ouais, c'est normalement ce qu'on passe, on appelle la stratégie de sortie. Là. Justement, d'évaluer s'il n'existe plus ou pour une raison obscure. Puis c'est des cas qui existent pour de vrai, même au Canada, où on fait affaire avec des hébergeurs américains. Puis disons qu'une mésentente commerciale entre le Canada et les États-Unis. Et c'est déjà arrivé que des compagnies perdent accès à leurs données qui étaient hébergées aux États-Unis durant cet élément de mésentente-là entre le Canada et les États-Unis. Et ça arrive. Fait que, tu sais, c'est pas issu. Donc, il faut évaluer la portée. Donc, on fait un petit crush sur la localisation des données. C'est un call ou souveraineté des données, tout dépendant comment on veut le regarder. C'est une chose. Mais qu'est-ce qui arrive si, peu importe un cataclysme ou sans des données brûlent, le fournisseur ferme les portes de façon abrupte et coupe le service. Est-ce que les données sont ailleurs? Tout ça doit être considéré puis la continuation de prestation. Parce que si vous le consommez, c'est parce qu'il a ajouté de la valeur à votre entreprise. Comment vous continuez ou comment vous permettez de continuer cette génération de valeur-là, mais sans ce fournisseur-là, par exemple?
Puis il n'y a pas juste les faillites, les fermetures, il y a des rachats. Il y a des rachats aussi qui viennent. Mettre en perspective d'autres facteurs qui sont à risque. Par exemple, les grands de ce monde font beaucoup d'acquisitions. Donc, il faut vous assurer, quand vous allez chez un fournisseur, ben assurez-vous de regarder ce qu'on appelle des événements notables. Faites une vigie. Est-ce qu'il y a un processus d'acquisition par un GAFAM? Est-ce qu'il y a un processus d'acquisition par votre fournisseur, d'un autre fournisseur, est-ce qu'il pourrait y avoir un enjeu? Est-ce que un achat potentiel par une compagnie dans laquelle vous avez moins confiance ou qui ne correspond pas à vos valeurs vous ferait changer d'idée à ce moment-là? Faut pas oublier, il y a des compagnies indiennes, il y a des compagnies chinoises qui sont très riches, ils en font des acquisitions. Bon, je ne veux pas traiter ces pays-là de pays voyous, mais écoutez, ils ont de la morale douteuse, c'est des pays à la morale douteuse, malheureusement, puis qui ne correspondent pas beaucoup à nos valeurs aussi. Là. Ouais. Ça pourrait occasionner peut-être des certains enjeux.
L'exemple facile à l'heure actuelle, c'est la Russie où il y a des boycotts nommés. Mais celui-là, ça, c'est pas, il n'y a pas de grande question philosophique à placer là-dessus parce que d'un point de vue étatique, c'est normé. On n'est pas supposé faire du commerce avec ce pays-là en l'occurrence. Il y a d'autres pays aussi qui sont pris sous ce genre de pression économique-là. La Chine, tu le mentionnais, oui, effectivement, pas les mêmes valeurs. Et en plus, il commence à y avoir des tensions économiques et politiques entre la Chine et plusieurs pays d'Occident, notamment le Canada, notamment les États-Unis. Il commence à y avoir des boycotts. Le type de TikTok est un exemple de boycott. C'est mineur parce que pour une entreprise, j'ose espérer qu'il n'y a pas d'entreprise qui dépend énormément de TikTok sur leur chef d'affaires. Mais somme toute, ces stratégies-là, si on écoute ce qui se passe dans les discours pendant la campagne présidentielle américaine, je pense que quand le podcast va sortir, la présidence va être connue, c'est qui va avoir gagné. Mais à l'heure actuelle, les deux candidats amènent quand même une certaine vérité par rapport à la Chine en termes de tarifs économiques et des choses comme ça. Donc, ça peut avoir une incidence très, très forte sur ça. Puis là, le volet rachat ou les mouvements là-dedans, c'est important. Puis il y a un épisode qui a été diffusé là-dessus qui prenait des exemples, justement des cas d'exemples. Il y a des cas qu'on n'a pas parlé, notamment comme Apple. Quand Apple fait une acquisition, ben, le produit disparaît. En l'espace de 2 ans, il disparaît, puis Apple ne le revend plus. Il a juste intégré la technologie. Fait que c'est de savoir comment les grands acquéreurs vont opérer. Donc, comme on a vu, comme quand Intel avait racheté McAfee, ben, il avait maintenu ça à côté. VMware est un exemple de compagnie. Quand il se fait racheter, il n'est pas absorbé par la compagnie qui achète, mais il reste comme une entité autonome. Bon, il y a eu certaines modifications qui fait que c'est un peu plus douloureux ces temps-ci, cet exemple-là. Donc, de s'assurer que de voir comment les us et coutumes de ces acquisitions-là vont avoir des effets, justement, cette vigie-là est nécessaire pour être capable de ne pas être pris les culottes à terre. Et en ce cas-ci, ben, tu sais, en même temps, les compagnies qui ont été pris les culottes à terre par les différentes acquisitions dans les dernières années, ben, on n'a pas fait une vigie de façon très exhaustive sur le portefeuille de produits qu'ils utilisent. Puis des fois, peut-être au fait qu'ils ne connaissent pas toute la sortie de leur portefeuille non plus dans certains cas. Là.
Moi, cette vigie-là, j'appelle ça le protocole boule de cristal. Hein? C'est un petit peu, c'est de valider les tendances. Mais ça se fait, je dirais, a posteriori. Rentrons dans le vif du sujet. Là. Quels sont les points importants à regarder? Là, on a choisi le service. On sait ce qu'on veut. On a fait notre comparatif. Est-ce qu'on devrait l'avoir à l'interne? Ce qui vient justifier l'externalisation. À l'externe, comment il y a de compétiteurs qui offrent le même genre de service? Puis est-ce qu'on a fait justement notre évaluation sur la différents critères? Bon, la notoriété du fournisseur, ses tendances, sa qualité, son emplacement, bon, peu importe. Une fois que vous avez choisi ça, vous avez ce que vous faites, vous préparez votre feuille de route. Donc, vous allez évaluer certains risques. Ça ne demande pas une revue, on va dire, exhaustive, mais ça prend une revue qui est très objective. Autrement dit, vous allez sélectionner des critères. Par exemple, on va regarder, au niveau de la continuité des activités. Le tiers, c'est quoi la dépendance de vos activités, on va dire, importantes? Qui sont faites à l'aide justement du service ou du fournisseur. Est-ce que vous mettez en place un comité opérationnel aux semaines, aux 2 semaines? Allez-y selon votre degré d'assurance. Ça, j'appelle ça le protocole du frisson sur le bras. Là. Autrement dit, votre nervosité, puis ces tables opérationnelles-là, mettez-les les sujets qui vous inquiètent. Donc, des incidents, interruptions, dégradation de performance ou dégradation totale, etc. T'sais, validez ces différents points-là. Comment ils ont été adressés? Est-ce que le fournisseur vous promet des indicateurs de disponibilité de performance? Oui. Est-ce que votre contrat prévoit, lorsqu'il ne les atteint pas, des pénalités? Souvent, ça devient une carte à jouer pour les fournisseurs. Les fournisseurs ont très confiance en leurs produits. Ils connaissent leurs indicateurs. Ils ont des belles équipes en place. Ensuite de ça, au niveau de la dépendance entre le fournisseur puis vos technologies. Est-ce que vous avez pensé que ça se peut qu'il y ait de l'incompatibilité? Donc, un engagement financier supplémentaire de votre part que vous n'auriez pas vu. Faites attention parce que ça arrive plus fréquemment qu'on pense. Vous allez vous rendre compte que souvent, les fournisseurs ont des produits beaucoup plus flexibles en termes de compatibilité que ce que vous avez à l'interne. Il faut être très libéral dans l'utilisation de nos technologies puis accepter toutes sortes de technologies aussi. Je ne dis pas de vous éparpiller, mais aller vers de la modernité, assurez-vous qu'il y a de la flexibilité. Ça fait que ça va être beaucoup plus simple d'intégration avec, avec votre nouveau fournisseur pour votre prestation de service. Qui fait la gestion? Est-ce qu'on vous propose un produit qui va être hébergé, ça s'arrête là, fait que vous êtes maître de votre entretien, votre maintenance, qui fait ça? De quelle façon vous faites votre traçabilité? C'est pas parce que c'est chez le fournisseur puis qu'il y a un incident qui survient qu'il faut pas utiliser le même traitement puis la même rigueur que si ça arrivait sur vos équipements. C'est égal, c'est la même chose.
Oui, cette définition du partage des responsabilités est très importante. Tu l'as mentionné, les incidents, en un, mais le point précédent que tu as mentionné est également très important parce que de ce départage-là, de mon expérience, est mal maîtrisé. Parfois, on a l'impression que le fournisseur est plus responsable qu'il est vraiment et vice-versa. Donc, ça arrive à mettre des éléments de confusion. Alors, en incident, ça en est un parce que des fois, le fournisseur a une responsabilité beaucoup plus grande que qu'on anticipe. Donc, on est quasi, dans plusieurs cas, exclu du processus où on a juste le rapport final puis c'est tout ce qu'on a accès puisque la responsabilité était vraiment de son côté. Donc, de bien avoir une vision claire, de maîtriser ça parce que, en tout cas, bref, de mon expérience, c'est très, très peu maîtrisé. Puis ça amène généralement des situations un peu plus tristes dans des éléments plus sensibles comme les incidents ou dans d'autres éléments. Là.
Souviens-toi, les boîtes de courriel des associés Deloitte qui étaient hébergés sur un container AWS où lorsque le container a été la propriété, en fait, lorsque les admins de Deloitte ont pris la propriété de faire la gestion des accès, ils ont réduit le format d'accès par défaut au container, ce qui a fait en sorte qu'une console d'administration où on ne pesait pas sur logout, si on fermait la fenêtre, il y avait un délai où la session restait ouverte. Et c'est de cette façon-là que les comptes des grands dirigeants de Deloitte aux États-Unis se sont fait hijacker leur boîte de courriel. Ça, c'en est un exemple. Puis Amazon n'a jamais été poursuivi pour ça parce qu'eux autres, dans leur contrat, c'est très clair. Là où s'arrête leur responsabilité est celle du client où elle débute. Hein? Donc, bien important, effectivement. Tiens, on parle de sécurité de l'information. Ça va être quoi l'implication du fournisseur, de son personnel? Est-ce qu'il va être en mesure d'accéder à votre service qui est hébergé chez lui? En l'occurrence, la réponse, c'est oui. Mais par contre, on peut spécifier au contrat, ça va être quoi la part de responsabilité? Un incident, vous n'aurez pas le choix. Vous allez avoir besoin du concours puis de la collaboration du personnel du fournisseur, c'est une chose. Mais pour tout autre type d'intervention, définissez les types d'intervention. Puis assurez-vous de mettre de la surveillance si c'est possible. Un autre élément à surveiller, si vous avez de la donnée, on va dire, qui est assujettie à de la réglementation PRP, qui transite, bien, assurez-vous d'avoir les mesures en place. Assurez-vous également que dans certains cas, par exemple, si vous décidez de faire affaire avec un fournisseur qui est basé aux États-Unis, à votre clientèle, n'oubliez pas le disclaimer. Si jamais la donnée doit transiter aux États-Unis pour tel ou tel service, ça va être fait. Il faut que les gens soient confortables aussi avec ça. Je sais qu'on parle, on parlait du, je me souviens plus, c'est-tu le Patriot Act, ça?
Non, c'est plus bon, c'est, alors ça, c'est le Cloud Act.
Bon.
Mais ça crée des inquiétudes, puis il faut que ça soit maîtrisé, puis tu as fait la chose, parce que le Patriot Act est vraiment rentré dans la mémoire des gens de façon très, très intense, puis il a expiré, je pense, il y a 2 ans, là, assez récemment. En tout cas, les dernières clauses ont expiré dernièrement. Mais ça a fait peur à beaucoup de gens et avec raison. Donc, c'est justement ce confort-là. Même si le Patriot Act n'est plus en action présentement, ce sentiment-là, puisque la sécurité, ça demeure un sentiment, il faut que les gens soient confortables avec l'idée que les données peuvent transiter ou être hébergées aux États-Unis sur une plus ou moins longue période. Mais ça, c'est normal, là, c'est de cette connaissance-là, parce qu'on n'est plus dans un monde... où c'était des cabas, les TI maintenant c'est très normé, on a des attentes, on a des formats maintenant qui sont beaucoup plus conformes, on fait peu du comme quand j'étais disons, plus jeune où c'était un peu plus cabas, puis on fait des mises en production n'importe comment, maintenant c'est normé, il y a des façons de faire, il y a des processus, donc puis s'il y a du légal, puis ben, c'est ce genre de choses-là pour que les clients soient bien bien confortable que ou notre le compagnie qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils font. Souvent, ils vont avoir des sections qui vont le décrire d'ailleurs sur leur site, généralement, ou les plus gros fournisseurs. Si tu vas déjà chercher dans les trois grands clouds, ils ont tous des sites un peu partout dans le monde. Donc, d'être sûr qu'on consomme le bon site, parce que des fois, on ne consomme pas nécessairement le bon site. Fait qu'il faut juste des petites vérifications comme ça qui sont qui deviennent essentielles de nos jours, comment on fonctionne. Les temps ont changé.
Tu as parlé de plusieurs sites, un autre élément au niveau de la continuité des activités. Assurez-vous qu'il y a un de la redondance. Deux, le fournisseur possède plusieurs sites ou dans la mesure où il n'en possède pas, ben a une mécanique de backup ou une mécanique de relève. Puis assurez-vous qu'elle est testée parce que si jamais il arrivait un incident malheureux, vous allez être plus confortable de savoir, OK, le fournisseur a une pratique qui est éprouvée, qui est testée, il connaît sa mécanique, il va être en mesure de nous relever, on va perdre le service pendant X temps. Parce que c'est sûr, vous allez être informé quand le service va tomber, mais assurez-vous qu'il y a ces pratiques-là en place. Ensuite de ça, faites les préparez votre stratégie de sortie. C'est pas parce que vous entrez ou vous faites entrer un fournisseur qu'il faut pas le sacrer dehors à un moment donné. Songez à votre stratégie de sortie. Il y a des clauses là-dedans. Il y a des clauses qui font en sorte que vous allez vous assurer d'avoir de la collaboration du fournisseur pour vous aider justement à sortir de leur solution. Il y a un partage de responsabilités. Votre stratégie de sortie, ça ne veut pas dire de stopper le service, c'est peut-être de partir chez un autre fournisseur. Ou si vous avez développé ou fait l'acquisition d'une solution à l'interne, assurez-vous de récupérer les données. Assurez-vous que les données sont bien détruites avec des certificats qui le prouvent aussi chez le fournisseur. C'est toutes des petites mécaniques à mettre en place, à s'assurer de. Puis l'autre élément que je n'ai pas mentionné, c'est très sexy. Pour les fournisseurs, beaucoup de fournisseurs font faire des audits indépendants. Un SSAE 16, NCMC 34 16, le un que j'aime bien et qui est énergivore, le SOC 2 type 2. Souvent, quand ils produisent le SOC 2 type 2, vous avez déjà, vous le recevez parce que vous en êtes client, vous comprenez déjà le modèle de gouvernance, comment sont régies les technologies chez votre fournisseur. C'est quoi les pratiques du marché qu'ils ont mis en place? C'est quoi les différents contrôles? Alors, vous allez retrouver des contrôles de relève après sinistre, des contrôles de gestion des opérations, saine gestion des accès, gestion des changements. Puis tout ça est testé par l'auditeur indépendant avec suffisamment de tests qui démontrent le bon ou moins bon fonctionnement. Quand je dis sexy, c'est que c'est un élément très marketing pour vendre ces services, démontrer qu'ils appliquent justement les bonnes pratiques. Puis quand il y a des réserves, ce qu'on appelle une faiblesse d'audit, par exemple, malheureusement, elle est divulguée. Si elle est divulguée puis elle est diffusée à la clientèle, sachez ceci, il y a une mise en place d'une solution corrective ou d'un rehaussement ou d'un resserrement de contrôle qui est quasi immédiat. Souvent, ça se fait dans la même semaine. La terre arrête de tourner, où ça a mal été, cause racine, on trouve le contrôle, qu'est-ce qu'on rehausse, on le met en place, puis sachez qu'il va faire revenir l'auditeur, puis il va le payer la semaine suivante pour venir le tester, pour effacer justement la réserve du rapport. J'en ai déjà fait. Puis c'est un beau produit, ça permet d'atteindre un plus grand éventail de clients pour ce fournisseur-là.
Oui, puis c'est une déclaration de maturité des processus TI. C'est pas sexy de parler de processus TI parce que généralement, on aime ça jouer dans les machines, mais la réalité maintenant, c'est que c'est des processus TI qui encadrent les différentes facettes et donc ça démontre cette maturité-là par l'existence de ce rapport-là, justement, quand tout est ouvert, c'est-à-dire que ils ont une très grande maturité, donc une plus grande stabilité, prévisibilité et un niveau de sérieux aussi de ces entreprises-là. Donc, c'est pour ça que notamment les trois grands cloudeurs l'ont, mais à travers ces compagnies-là, il y en a d'autres de plus petite taille qui vont également avoir des rapports, pas tous, mais ils vont en avoir un certain nombre qui vont leur permettre justement de nous donner ce degré de confort-là. qu'ils ne disparaîtront pas demain, puis qui vont aussi essentiellement collaborer avec notre stratégie de sortie. Tu penses à cette collaboration? Ce n'est pas tous les fournisseurs qui collaborent avec les stratégies de sortie. Il y en a qui sont moins. Ça fait penser à, il y a eu des publications sur LinkedIn la semaine passée ou l'autre, justement, où il y a une personne qui se plaignait que sa sortie d'un fournisseur ne s'est pas bien exécutée, justement. Heureusement, là, il y a eu une maturité dans la conversation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nommé le fournisseur en question, mais puis que la solution, le problème s'est fini par se résoudre. Mais ces stratégies de sortie-là, justement, ça, c'est un bel exemple dans un cas d'une PME où il peut y avoir des situations qui sont plus problématiques. Donc, de s'assurer qu'on n'est pas enchaîné à ce fournisseur-là. Puis, quand on revient au grand avec le SOC 2 et ainsi de suite, ben, c'est une démonstration qu'on n'est pas enchaîné. Mais en même temps, c'est un signe qu'il faut qu'on fasse le travail pour déployer ou concevoir la stratégie de sortie, parce que le fournisseur ne le fera pas pour nous autres. Il va nous donner les outils techniques pour l'exécuter, mais il ne fera pas notre plan pour nous. Fait que c'est arrange-toi avec tes choses.
Oui, puis un autre élément aussi, la solution, le service que vous utilisez chez le fournisseur, est-ce qu'il est assujetti justement à vos états financiers? Donc, les fameux audits financiers, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand votre vérificateur va débarquer chez vous avec son casque, ses bottes, qui apprend que vous utilisez une solution chez un fournisseur, si le fournisseur n'a pas de rapport de type SOC, par exemple, il est fort à parier que vous allez devoir faire un appel de service chez le fournisseur pour faire produire des extractions, puis ensuite de ça, faire produire des évidences. Sachez que vous allez être billé pour ça. Fait que c'est un autre aspect aussi. C'est un petit piège des fois que les gens oublient rapidement. Je l'ai vu dans des organisations.
La contamination, ouais. Parce qu'il y a une forme de contamination, les tiers, loi 25 nous le rappelle, mais c'est aussi dans ce genre, dans les compagnies assujetties à des rapports financiers, il y a une dépendance. Donc, le vérificateur va assurer que les dépendances, notamment avec les fournisseurs, qu'ils soient TI ou pas TI, et dans le périmètre, et c'est pas agréable quand tu appelles ton fournisseur et qu'il ne s'y attendait pas à devoir faire des extractions. Pour l'avoir vécu, t'as quelques mots haineux qui ont lieu dans la conversation. Et quand on explique qu'on va payer notre erreur, généralement, les mots haineux diminuent un peu, mais mettons que ça crée un petit sursaut dans la relation d'affaires.
Oui, puis ça peut coûter cher. La deuxième option, si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez faire un audit. Ça, c'est un autre élément aussi. Vous pouvez demander au fournisseur d'avoir une clause qui vous permet d'envoyer votre vérificateur dans ses locaux à votre charge. Par contre, pour justement faire produire les extractions, l'échantillonnage, les évidences. Dernière option, qui est plus coûteuse, vous pouvez faire votre propre SOC chez le fournisseur. Je l'ai déjà vu. Encore là, c'est à votre charge. Donc, vous bâtissez les contrôles que vous voulez faire auditer pour avoir une assurance raisonnable un niveau de confort. Vous allez négocier un prix annuel. Est-ce que l'auditeur y va 1, 2, 3, 4 fois par année? Toutefois, le choix de l'auditeur va souvent être sous la gouverne du fournisseur. Fait que ça ne l'empêche pas de prendre son auditeur qu'il connaît déjà, par exemple. Ça, vous pouvez le faire. Je l'ai déjà vu. Ça coûte pas mal plus cher que vous pensez, même si c'est juste une visite. C'est cher. Les prix ont dû augmenter depuis le temps, là. Mais ça peut aller jouer dans les chiffres, là, comme honoraire, là. C'est des travaux qui sont exhaustifs. Il ne faut pas oublier que vous dérangez le personnel du fournisseur pour faire ça. Ce n'est pas un audit financier pour le fournisseur. Il y a l'audit financier du fournisseur, mais votre audit spécifique, c'est un deuxième audit qui est totalement indépendant. Ils refont les travaux en double. Je le sais, j'ai été des deux côtés. C'est comme ça qu'on peut avoir de l'indépendance et de la valeur, ce qu'on appelle de la valeur aussi au rapport. Dernier élément. On est sous le joug de la cybermenace depuis plusieurs années déjà. Est-ce que le fournisseur fait faire des pentests de façon régulière? Est-ce que le type de service puis la donnée qui est transitée, transformée, puis ensuite de se retourner dans vos systèmes, Vous la jugez suffisamment importante? Ben, la réponse, c'est oui. Là, pensez au rançon judiciaire. Là, ramenez ça chez vous. Ça va vous causer des maux de tête. Mais est-ce que le fournisseur fait faire des pen tests? Parce que si vous avez une équipe dédiée, vous pouvez proposer au fournisseur de faire vos pen, pas ses pen tests ou vos pen tests. Vous pouvez même négocier de faire ses pen tests moyennant une charge financière, bien entendu. Mais ça devient encore un autre sujet important parce que ça va vous sécuriser. Quand les données reviennent dans votre infra pour être consommées, ben vous ramenez pas justement des vidanges qui auraient été déversés par une cyberattaque chez le fournisseur aussi. Là.
Oui, absolument. Puis de toute façon, dans les dernières années, j'ai plus vu pendant le confinement puis maintenant, où les fournisseurs ont tendance à... Les plus petits fournisseurs vont se faire attaquer et vont nous... Tout dépendant du degré de relation que tu as, puis ça peut du simple courriel qu'on pense qui est légitime, qui nous arrive, qui nous infecte, à des liens d'affaires électroniques qui, dans lesquels, justement, le code remonte et remonte jusqu'à nous. Donc, de s'assurer que ces situations-là n'ont pas lieu, de se prémunir contre ça pour pas que ces vecteurs-là. Puis on l'a vu dans les dernières années également, puis même peut-être un peu plus loin aussi avec SolarWinds, qui est le cas le plus vieux, le plus connu et le plus vieux d'attaques tiers qui ont servi à rentrer ailleurs. C'est complexe, là. On ne parle pas d'un cas simple. Puis c'était pas le but de ce qu'on parlait, n'est pas d'adresser ce genre de problème-là, mais c'est un exemple que le tiers peut servir à remonter, donc nécessairement d'au moins s'assurer que d'avoir cette conversation-là avec les tiers qu'on a pour pas que ça remonte. SolarWinds est une grande compagnie, fait qu'on peut présumer une certaine forme de négligence, mais dans notre quotidien au Québec, au Canada, puis probablement dans la plupart des pays de la francophonie, c'est plutôt rare que nos fournisseurs sont tous de taille immense. Généralement, ils vont être de petits fournisseurs. Il y aura beaucoup de petits fournisseurs qui n'ont pas tant d'argent que ça pour en mettre en TI ou en SI ou qui ont pas vu l'intérêt de le faire dans le passé, donc des amener à maturité, comme tu mentionnes, puis des aider à grandir aussi, là. Pour les grandes structures, ben c'est toujours bien d'aider ces petits fournisseurs à progresser, à continuer. Parce que si on doit changer, même si c'est un petit fournisseur, si on doit le changer, ben c'est du trouble, c'est pas le fun, c'est un paquet de problèmes. Là.
Puis le dernier élément, quand vous décidez de bâtir le contrat, c'est à la satisfaction des deux parties, vous signez, puis vous commencez à consommer justement les services du fournisseur. Assurez-vous de faire un due deal sur la santé financière du fournisseur. Ce que je vous disais tantôt, là, puis démarrez votre protocole boule de cristal. La santé financière, je ne dis pas de faire ça de façon intrusive, là, parce que fort probablement que les fournisseurs ont déjà certaines mécaniques pour démontrer leur santé financière déjà, mais faites-le, puis posez-leur des questions si vous avez l'interprétation des doutes. Faites-le à chaque renouvellement, mais puis ensuite de ça, ben vous démarrez votre vigie. Votre vigie, est-ce que vous sentez qu'il va y avoir, est-ce que c'est privé puis ça va être coté en bourse? Est-ce qu'il y a un possible rachat? Les gros GAFAM, ils sont gourmands, ils achètent beaucoup de choses. Puis, comme on a dit tantôt, un contrat peut devenir obsolète par l'acquisition d'un plus gros. Il y a ça aussi, avec un délai extrêmement restreint. Et puis, le type de service que vous consommez, il n'y a rien qui vous empêche de poser aussi la question une fois de temps en temps aux fournisseurs. C'est quoi ces projets futurs d'expansion, de fournir des services? Ça vous permet d'engager la conversation avec eux? Ça vous permet de voir là où le fournisseur peut s'en aller? Vous allez peut-être déceler des nouveaux services qui pourraient vous intéresser, première des choses, ou... un fournisseur pour avoir une solution qu'on appelle on-prem chez le fournisseur à lui, puis décider de s'en aller dans une version info-nuagique. Tu sais, évaluer les deux choses. Une version info-nuagique, oups, est-ce que ça change le modèle de consommation qu'on a? Deux, c'est quoi les nouveaux risques? C'est quoi le fournisseur? Tu sais, c'est toutes des petites questions. Je sais que ça a l'air lourd, ça a l'air pesant, mais c'est quand même, je pense, des questions importantes. Ouais, c'est de la business, puis il faut le faire, l'exercice.
C'est essentiel, puis dans le cas de grande entreprise, c'est pas si pire quand un fournisseur vient changer comme ça. on est capable quand même d'encaisser les coûts, mais dans les plus petites structures, une PME qui perd un fournisseur ou qui change de fournisseur, il y a eu quelque chose avec son fournisseur, les dommages peuvent être beaucoup plus dramatiques. Ça peut être des arrêts de production, ça peut être des pénalités financières, ça peut avoir des conséquences qui sont quand même très variées et qui peuvent causer des préjudices très importants au fonctionnement de l'entreprise, pour avoir des coûts financiers très, très importants. Puis là, on parle de TI, mais c'est comme ça pour tous les fournisseurs aussi. Là, nous, notre domaine est plus là. Mais il demeure que c'est le même processus pour n'importe quel fournisseur dans lequel on fait affaire, s'assurer que demain, il soit encore là. Puis en même temps, puis c'est l'autre côté, puis ça, je vais mettre ma casquette sur le fait que j'aime beaucoup les startups. C'est le bout où les startups, généralement, ne passent pas nécessairement bien les critères des grandes entreprises parce que, bon, la solidité financière, généralement, n'est pas tout à fait présente dans une startup. Mais en même temps, c'est la place où les grandes entreprises ou des plus petites peuvent prendre un risque calculé parce que, justement, quand tu fais tout ce processus-là de gestion des tiers, bien, ton risque devient nécessairement connu, calculé. Et il y a une mesure de repli qui peut être mise en cas où la start-up, malheureusement, ne va pas, ne veut pas florir, par exemple, dans sa pleine splendeur ou est rachetée en cours de chemin ou littéralement fait faillite parce que, malheureusement, la solution n'a pas été capable d'arriver à terme comme ça aurait dû, mais c'est un aspect aussi à conserver. Et justement, ouvrir la porte à ce genre de fournisseurs-là qui sont quand même innovants pour la plupart, amènent des idées nouvelles. Fait que je trouve ça important parce qu'en grande entreprise, ils vont être frileux généralement à touche pas aux startups parce qu'il y a un risque.
La grande entreprise va investir dans des pratiques dans les universités ou des collèges, entre autres. Ça se fait énormément. Mais tu as raison, l'autre vecteur, c'est effectivement des startups, c'est très. Je vais appeler ça, c'est du libéral open source. C'est innovant.
On va dire volatile, mais oui, ça amène des choses, mais il ne faut pas se fermer la porte à ce genre d'innovation-là. Parce qu'on revient au début, la gestion des tiers, c'est aussi comment ce tiers-là nous apporte de la valeur à notre entreprise. Donc, ces startups-là peuvent apporter de la valeur à nos entreprises. On ne peut pas les exclure de facto parce qu'ils n'ont pas la santé financière, parce que dans les critères que tu mentionnais vers la fin. Ben, peut-être pas, mais au minimum, va nous apporter une valeur. Et la stratégie de sortie va nous permettre justement d'accueillir le fait que cette start-up-là n'a pas réussi à vivre ou n'a pas réussi à émerger comme elle aurait dû à ce moment-là. Juste de se garder une petite porte pour ça, parce que c'est quand même encore beaucoup de start-up à travers le monde qui ont des idées intéressantes. Puis ça serait dommage que cette gestion des tiers vienne limiter cette capacité-là d'entreprise à venir chambouler les choses et aller nous amener dans un monde meilleur.
Puis au fil des années, si le fournisseur vous plaît, ben pensez à un plan d'acquisition. C'est peut-être vous qui allez faire l'acquisition justement du fournisseur avec son infrastructure, avec ses idées. Vous allez peut-être même démarrer une division où c'est vous qui allez offrir cette prestation de service-là à la clientèle du fournisseur. C'est des avenues qui sont possibles aussi, là.
Oui, puis ça s'est vu de ce genre de mouvement transverse. Ça fait un bon tour pour la gestion des tiers. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais couvrir qu'on n'a pas encore couvert?
Non, moi, j'ai pas mal fait le tour. Moi, je pense que... Ah oui, une fois que vous avez fait votre gestion de risque, mettez pas ça dans une filière, dans un tiroir, là. Ça prend un suivi, hein? Ça prend un suivi. Ce que j'appelle des tables de gouvernance. Comité exécutif, hein? Donc, les indicateurs sont-ils atteints? La santé va-t-elle bien? Est-ce que ça va bien? Des comités opérationnels. Donc, toutes les petites bébites d'incidents, de baisse de performance, d'autres types de dialogues, évolution à venir, bon, peu importe. Tu sais, ça prend des comités, des tables où vous maintenez le dialogue avec le fournisseur. Et puis, je pense qu'avec ça, vous avez un gros minimum de fait pour justement avoir un confort sur le risque. Puis les mesures, un risque peut mener à mettre des mesures en place, soit chez vous, mais des fois aussi chez le fournisseur, pour qu'il gagne en maturité. Mais en premier lieu, dans votre partage de responsabilité, ça sera probablement pas au contrat, mais là où le risque va être trop grand pour vous, mais que la solution abrite suffisamment parce que c'est elle que vous voulez, bien, pensez aux mesures que vous pouvez mettre en place aussi. Ça devient une charge reliée au contrat, mais c'est des choses qui sont faisables et que j'ai vues, là.
Excellent. Bien, je te remercie énormément. Très intéressant. Un bon tour d'horizon sur la gestion des tiers. Puis on va peut-être en revenir sur ce sujet-là, sur d'autres axes éventuellement.
Ça marche!